Radio Campus sur le 88.3 FM.
Bondy Blog Centre. www.bondyblogcentre.fr.
Bondy Blog Café.
Bondy Blog Centre.
Bondy Blog Café.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission de rentrée du Bondy Blog Centre Café. Il sera question dans cette émission de trois pays africains, le Sénégal, la Côte d'Ivoire et le Congo, d'un double anniversaire et de deux tours du monde. Il sera également question de world class, d'un homme enfermé dans une boîte, de colons qui continuent de piller, du sacrifice d'une âme humaine et de la musique utilisée comme une arme pour combattre. Les vacances sont terminées et j'en profite pour vous ramener quelques souvenirs glanés lors de mon séjour à Cajar. J'y ai accompagné là-bas des jeunes qui ont animé une radio temporaire pour couvrir le festival Afri-Cajar. Ce festival a fêté son 20e anniversaire cette année et c'était du 19 au 22 juillet. Afri-Cajar, c'est un festival des cultures africaines durant lequel les arts du théâtre, de la sculpture et de la danse côtoient ceux de la littérature, des métiers et de la musique. L'Afrique y est présentée comme un continent d'une très grande richesse culturelle. Les occasions de rencontres et d'échanges sont nombreuses et celles de réaliser des émissions ne manquent pas. Je vous le concède, Afri-Cajar se situe un peu loin de la zone de couverture éditoriale du Bondy Blog Centre et pourtant... Nous ne sommes jamais très loin les uns des autres sur notre planète Terre. Vous verrez à la fin de cette émission que certaines planètes invisibles à l'œil nu peuvent se révéler être plus proches de nous que nous ne l'aurions imaginé. Mais ça, c'est une surprise que je vous réserve pour la fin de cette émission. Je vous le disais, nous ne sommes jamais très loin les uns des autres. Prenez Touré Kounda par exemple. Ils sont passés en région centre, à Blois, et c'était le 20 mai dernier, pour faire la promotion de leur dernier album. Le festival Afri-Cajar les a invités cette année pour un double anniversaire, celui des 20 ans du festival qu'ils avaient ouvert en 1999 et celui de leurs 40 ans de carrière. Ils ont accordé une interview aux jeunes Cajarquois, Cajarquoises et Ariégeois, Ariégeoises qui animaient la radio pédagogique et temporaire des Francas.
Bonjour, en direct d'Afri-Cajar 2018. Aujourd'hui, un interview de Laura, Lila et Satyam pour
Touré Kounda,
d'accord.
Touré Kounda.
Bien, allez-y.
Alors donc aujourd'hui, nous accueillons le groupe Touré Kounda, qui est un groupe sénégalais mondialement connu. Ils reviennent cette année donc sur le festival après avoir fait l'ouverture il y a 20 ans pour la première édition. Qu'est-ce que ça vous fait de revenir à Afri-Cajar?
Ben rien.
Rien.
Mais c'est extraordinaire.
Parle plus près du micro.
C'est extraordinaire. Après 20 ans.
Après.
Et Cajar nous invite pour son festival. Ça nous fait énormément plaisir. Et puis nous aussi, on fête notre 40e année de carrière. Donc ça coïncide
bon
très bien.
Bon anniversaire, du coup.
Merci.
Oui, c'est vrai. C'est ça qui est assez important. Les deux anniversaires qui coïncident. Et en général, ce genre de choses, ça ne se calcule pas.
Oui.
Ça se coïncide et on ne comprend pas pourquoi ça se coïncide. Et puis voilà, on en tire une conclusion. Et j'espère que vous ferez une bonne fête comme nous. En tout cas, nous, on la fera sur scène.
On y sera.
Et du coup, est-ce que vous trouvez que le festival a évolué en 20 ans?
En 20 ans, on n'est pas venu. On n'est pas revenu, vous êtes mal tombé. C'est-à-dire que nous, la fois qu'on était venu, c'était il y a 20 ans. Et puis depuis, on n'est plus revenu.
Oui, mais vous voyez une différence par rapport à la première
Écoutez,
fois où vous
êtes venu. Déjà, moi, je ne me rappelle plus la situation de la scène. Je ne sais plus si c'était à cette direction ou si c'était oblique ou pas. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, l'accueil était presque le même. La nourriture aussi, c'était pas mal. Et puis le bon vin de Cahors, on ne l'a pas vu. Je crois qu'on nous a donné un sous-vin. Mais c'est sérieux. Si c'était du très bon vin, on vous l'aurait dit, parce qu'on est connaisseurs.
Mais ce que je vais rajouter, c'est si on vient 20 ans après, parce que ce festival nous aime, et c'est pourquoi on est revenu.
peux poser ta question, ta deuxième question.
Et Africa Jar vous a manqué, du coup, pendant ce temps.
Il insiste, hein.
Oui.
Mais nous, partout où on a de bons souvenirs, ça nous manque toujours. Mais en même temps, il faut la place pour les autres. Et 20 ans après qu'on nous invite, on a dit « Waouh, on revient ».
Oui, c'est vrai que vous nous manquez dans la mesure où on entend parler de vous. Je crois que vous êtes en collaboration avec...
RFI.
RFI, non. C'est une radio France internationale. C'est une radio qui est aimée dans le monde entier. Et on a vu qu'il a parlé de vous. Et à chaque fois que vous faites votre fête, que Kajar fait une fête, on entend une exclusivité avec Kajar et cet endroit. Donc on, les gars parlent de vous. Et grâce à ces échos, nous savons que vous continuez à exister.
Donc ce soir, vous jouez, vous êtes en concert. Et qu'est-ce que vous attendez du public?
Qu'il soit en transe et qu'il soit fou.
C'est la
fête. Fou, qu'il soit fou, parce que ça va être la fête. D'autant plus que nous, on va faire ce qu'il faut faire pour. Alors à partir de ce moment, vous déchaînez et puis on se croise quelque part.
Ouais.
Est-ce que ça a changé quelque chose dans votre façon de jouer, d'être connu internationalement?
Non, ça ne change pas parce que nous avons déjà un répertoire. Bon, maintenant, le reste, c'est quand le public est chaud et ça nous amène un peu plus loin.
Ouais.
Voilà, c'est ça, des changements, quoi, des endroits, mais on est toujours statique. On chante comme on chante, on danse comme on chante, avec toute l'équipe. Et plus c'est chaud et plus le public est nous, alors là, tout change.
Et où est-ce que vous êtes allé durant vos tournées exactement?
Où on n'a pas été plutôt.
Vous n'avez pas été.
Oui, c'est plutôt là où on n'a pas été. Je sais qu'on n'a pas encore fait... on a fait la Chine, mais très court. Hein?
Oui, le Japon.
Oui, ça... Bon, et puis bon, il y a le coin qu'on n'a pas fait...
C'est la Russie.
La Russie, voilà. La Russie, parce qu'on sait que c'est pas très favorable pour les Africains,
ouais,
pour les étrangers. Alors, les endroits où c'est pas favorable pour les Africains, on n'a pas envie d'y aller.
C'est compréhensible.
Ouais, parce qu'on veut leur dire que, bon, c'est pas nous les cons, c'est eux les cons. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'on n'y va pas.
Ouais. Et parmi donc, tous les innombrables pays que vous avez visités, est-ce qu'il y en a un qui vous a marqué en particulier?
Moi, la Chine m'a beaucoup marqué.
Moi, ma ville natale, ça m'a beaucoup marqué aussi.
C'est quoi votre ville natale?
Ziguinchor, la région de la Casamance, où nous sommes nés. Parce que vous savez pourquoi ça m'a marqué? Parce que nos parents n'allaient pas voir les concerts. Et nous, les Touré, quand on est venus, on a joué. Ils étaient tous pressés de venir nous voir. C'est, ouais, c'est la première fois que je vois des personnes âgées qui viennent voir les concerts. Et ça, ça m'a marqué. Et puis aussi la France, hein. La France, les premiers festivals des Francofolies, de La Rochelle, le fait de la musique, on a fait les premières heures. Et ça, c'est des choses, on ne peut pas l'oublier. Et les États-Unis, toute l'Europe, c'est tout un ensemble, quoi.
Ouais.
Et la question, c'était quoi encore, pardon?
Hein, c'était parmi tous les pays que vous avez visités, vous a-t-il vraiment... Il y en a un qui vous a marqué? Et du coup,
Oui, parce qu'ils ont chacun le charme et chacun est différent. Et c'est vrai que suivant où vous retrouvez, vous avez un peu l'impression que c'est du déjà connu. Parce que justement, ça dépend des gens. Quand le public est accueillant, vous en rendez compte. Et en fonction de ça, le concert réussit ou pas. Et ça arrive que le concert ne réussit pas parce que le courant ne passe pas entre le public et nous. Mais c'est rare.
Je suppose que vous parlez plusieurs langues, alors lesquelles?
On parle francilien. Vous le parlez, vous?
Non.
Français.
Oui, non, mais on parle aussi nos langues africaines, la plupart d'entre eux, et puis un peu d'anglais, et puis beaucoup de français.
D'accord.
Donc on peut dire vive la France. Non.
On peut.
On peut,
on peut, oui.
On peut.
C'est vrai, comme du temps de Sarkozy.
On peut dire,
comme du temps. Non, pas comme le temps de Sarkozy.
On peut dire ça pour tous les pays.
Oui, non, mais par rapport à vos différents chefs d'État.
Est-ce qu'ils connaissent Sarkozy?
Macron, hein? Vous connaissez Sarkozy? Nicolas Sarkozy.
Ah oui, pardon, vous ne prenez pas tout le monde.
Ah oui, il fallait le nom et le prénom, oui.
Oui, je vois.
Bon...
C'est plus difficile de dire, enfin pour moi, dire vive Sarkozy. Ouais.
Que ressentez-vous quand vous montez sur scène?
Alors, beaucoup de stress, il faut le dire. Mais une fois la scène franchie, les marches franchies, ça part. Une fois que la première note est partie, on vient et hop, ça part. Le plus difficile était là. Et une fois que ça part, c'est là qu'on ne s'arrête plus.
Vous jouez de la musique, mais est-ce que vous en écoutez aussi?
Oui, mais très peu. Mais j'écoute la musique qui traverse à la radio. D'accord. À la radio, j'écoute, mais je ne lève pas pour mettre telle ou telle musique.
Mmh. Voilà. C'est pour vous dire qu'on n'est pas coupé du monde, en fait. On n'écoute pas que du Touré, on écoute autre chose. Alors la meilleure façon d'écouter autre chose, c'est la radio. Et pas toutes les radios, il y a certaines radios qu'on n'écoute pas. Lesquelles? C'est pas en tout cas vous, on vous écoute.
C'est long.
Mais c'est une très bonne chose. Non, c'est pas que c'est gentil, c'est parce que vous faites de bonnes choses. Si c'était pas bon, vous n'aurez pas écouté.
Et vous, vos radios préférées, c'est quoi?
J'écoute pas beaucoup la radio.
Non, non.
Voilà.
Ben, on est ensemble, alors.
Radio Franquin, 93.2 ouais. FM.
Alors, les jeunes, là, qu'est-ce qu'il y a, là?
Pas de publicité, pas de publicité.
Radio
Franquin.
Ah, ouais, donc on l'écoutera maintenant, dorénavant.
Alors, sur la programmation du festival, il y a marqué que votre style de musique, c'est le world class. Mais qu'est-ce que c'est le world class?
Vous savez, hein, les appellations, hein, world class, la classe du monde, c'est ça?
Ouais, apparemment.
Ouais, moi, je dirais world beat, comme d'autres appellent world music.
Ouais.
Mais j'aime bien le world class, ouais, parce que c'est tout nouveau, c'est classe.
Ouais, ça vient de vous ou vous avez trouvé ça ailleurs? Ça vient de vous ou vous l'avez trouvé tout seul ou quoi?
Ben, en fait, on l'a trouvé sur la programmation. On avait vu qu'il y avait ça et du coup, on s'est dit, mais c'est quoi comme genre de musique? Parce qu'on cherchait un peu. On voulait savoir ce que c'était vraiment le genre de musique.
Alors, on va décider que ça va faire partie de ce qu'il faut qu'on dise maintenant.
Oui.
Comme ça, ça sera en partie grâce à vous. Et puis bon, pourquoi pas? Parce que world beat, c'est vrai, mais ça nous a été emprunté. Mais world class, c'est vous que vous l'avez donné. Tant mieux.
Vous nous avez inspiré, là.
Oui.
On en est très fiers.
Vous pouvez nous aussi.
Comment vous avez appris à jouer des instruments?
Ça, c'est depuis tout petit. Quand il y avait des baptêmes, des mariages... Et il y a beaucoup de... Ces festivités amènent beaucoup de griots en train de jouer, de tam-tam, de la kora, des instruments traditionnels. Et nous, tout petits, on écoutait, on regardait et on s'inspirait, en fait. Mm-hmm. Et petit à petit, en grandissant, on a commencé à forger notre tam-tam tous les deux et tout, parce qu'on est frères. Mm-hmm. Et donc, à apprendre et chercher des baguettes et tout pour jouer, imiter ces griots qui chantaient, qui jouaient, et puis on s'y est mis. Et jusqu'à un jour, on est tombé dans la musique, et puis on a continué avec cette formation, continué à travailler et à créer des chansons, en empruntant des chansons d'autrui, de la Casamance, de notre région natale, pour nous amener aujourd'hui jusqu'à créer nous-mêmes. Et qui a fait que, quand on est arrivé, mon frère qui est arrivé le premier en France, et puis il a rencontré des Européens, des Français, et puis il m'a fait venir, on a rencontré des musiciens français, on a travaillé, et au fur et à mesure, au fil des ans, on s'est perfectionné pour arriver à là où nous sommes. Là.
Surtout que là, les distractions favorites chez nous, c'est l'enfant, il fabrique son jeu, son jouet ou son jeu. Et à partir de ce moment, on ne va pas au magasin acheter des trucs, on n'en ramasse pas des vieux non plus. Et c'est vrai que rien que ça, ça te forge à la fabrication, ça t'inspire, ça t'amène à faire des choses à ton goût et à ta hauteur. Et ça fait partie des choses qui nous ont beaucoup, beaucoup aussi influencés et que, bon, on y était obligés plus ou moins. Voilà.
Et alors, on a une dernière question. Quel est votre regard sur l'Afrique?
Sur l'Afrique, un peu... pas rassurant, et on espère avoir l'espoir que l'Afrique sera débarrassée un jour de tous ces colons qui sont là, qui rasent les murs et qui continuent à exploiter l'Afrique. Et puis, et que bon, on finira tous par être copains, amis, avec vous, nos amis.
Et que l'Afrique, il faudrait. L'Afrique a des ressources, hein, très riches, hein, mais on est prisonnier quelque part parce qu'on n'arrive pas à les extraire. C'est pourquoi les migrants que vous entendez courir et venir, on dit c'est la galère. C'est ouais. Parce qu'on est pauvre. C'est pas parce qu'on est pauvre. On dit ça, on est pauvre parce que personne n'aide l'Afrique à extraire ses ressources naturelles. Et nos gouvernements ne peuvent pas le faire sans le. Comment on appelle encore le. Sans l'aide ou la coopération oui. internationale, surtout européenne et particulièrement française, parce que nous, on est notre pays est francophone. Donc il faudrait que ces pays nous aident à développer ce que nous avons. On a du pétrole, on a du gaz, c'est la richesse, oui. mais on n'arrive pas à les extraire. Et ils nous demandent très cher. Donc ça, c'est pour nous appauvrir. Il faut faire ça, et là, je vous jure qu'il n'y aura pas de migrants du côté sénégalais et de l'Afrique de l'Ouest, parce qu'ils resteront, parce qu'ils ont du boulot. Ils ne sont pas venus comme ça au hasard pour dire je vais en Europe. Ils sont fatigués, c'est pourquoi ils veulent venir. C'est mmh. simplement ça.
Oui.
Il a l'air de quelqu'un qui va pouvoir résoudre le problème.
Bon, ben, merci.
Eh bien, merci beaucoup
bon.
D'avoir répondu
vous avez
à,
répondu
questions.
À toutes nos questions.
Bon, est-ce qu'on peut vous en poser une ou deux
si vous voulez.
Oui, alors,
si vous voulez.
Comment ça se fait que vous êtes là tous les trois pour faire cette émission?
C'est un stage radio avec le local jeune de Cajar.
Ah, wow. Vous faites stage radio.
Et il y a les Ariégeois qui ont fait un séjour ici.
D'accord. Donc vous voulez être, vous voulez faire partie de la famille de la radio?
Alors c'est un stage, on va dire, découverte.
Voilà.
C'est pour découvrir ce que c'est que la radio. Moi, je viens d'Ariège, moi, je ne suis pas d'ici.
Ah, d'accord.
Et quand j'ai entendu qu'il y avait un projet de venir sur Africajar faire de la radio et interviewer les artistes et les créateurs et les bénévoles et tout ça, j'ai dit, ben, je vais y aller tout de suite.
C'est bien fait.
Et qui vous avez interviewé?
Qui on a interviewé?
Alors, nous on a interviewé des artistes, surtout hier, on a interviewé Adja Fanta Diabaté. Sadam du groupe Imaran, je crois. Et
on a interviewé Mike Love aussi.
Ouais, Mike Love. On a interviewé le groupe de Burkina Hassa.
Ouais. On a interviewé quelques artisans aussi.
Ouais.
C'est bien ça.
Et des gens dans la rue en micro-trottoir.
Et des bénévoles.
Voilà. Bravo. Hein.
Vous comptez en faire une profession ou juste par curiosité?
Non, par curiosité.
Par curiosité.
Peut-être de l'envie vous viendra aussi la découverte.
Oui.
Ouais.
On verra.
Non, mais c'est bien, il faut que vous le fassiez. Hein. C'est pas inintéressant.
En tout cas, nous l'avons noté. Oui, vas-y.
Mais je veux dire qu'il ne faut pas s'arrêter là.
Non. Moi, je recommence l'année prochaine.
Ah bon, voilà, il faut prolonger ça. Bon, écoutez.
En tout cas, nous, on a noté quelque chose. Hein.
Le garçon là-bas, le monsieur là-bas, c'est qui?
Ça, je ne l'oublierai pas.
Il est à la technique, c'est Amine.
Ah, il est à la technique.
C'est lui Amine,
tu dis bonjour.
T'es où? T'es où?
Bonjour.
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 C'est super. En tout cas, nous, on a retenu quelque chose. Hein. World class.
World class. Ça, pour avoir la classe.
Là où on va faire des interviews, on va leur dire, mais nous, tout le coup, là, c'est world class. Mais c'est quoi? J'ai demandé aux jeunes, là. C'est génial. Touré Kunda, world class.
Bloc Café.
www.bondibloccentre.fr.
Voilà un double anniversaire, un tour du monde, du world class, des colons qui pillent. Et à venir dans la suite de cette émission, d'autres regards sur l'Afrique, voilà, portés par les invités à chaque fois des émissions successives que je suis en train de vous diffuser et qui sont encore à venir. Dans l'émission qui suit, il sera question, dans l'interview qui suit, il sera question d'un homme enfermé dans une boîte et du sacrifice d'une âme humaine. Saluons ici le sérieux des jeunes d'ailleurs pour réaliser une interview de grande qualité. Je vous le disais tout à l'heure, je vous le répète, nous ne sommes jamais loin les uns des autres. Prenez Soro Solo par exemple. Le célèbre animateur des émissions L'Afrique Enchantée et L'Afrique en Solo sur France Inter était présent le 18 avril dernier à Orléans pour le projet Bénin International Musical, BIM, qui a eu lieu à l'Astrolabe. Il a été l'invité de la radio des Francas lors des dernières heures de direct de la fréquence 93.2 en modulation de fréquence et des hertz, voilà. Et c'était le 22 juillet à Cajar. Il a témoigné de son amour de la radio et exhorté les jeunes à poursuivre leur pratique de la radiophonie.
Et on se retrouve pour une interview. Donc l'interview de Solo Solo. Alors, depuis combien de temps vous faites de la radio ? Bonjour.
Bonjour. Oula, attendez, je ne suis pas fort dans en arithmétique. Et on m'a dit, à partir 1984, aujourd'hui, ça fait quoi ? 34 ans. D'accord. Voilà.
34
ans. Ça fait 34 ans, depuis 34 ans que je fais de la radio. Mais d'abord dans mon pays, la Côte d'Ivoire. Et puis depuis 2003, je suis venu m'installer en France et je continue à faire de la radio.
D'accord.
Et qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir journaliste, de faire de la radio ?
Qu'est-ce qui m'a donné envie de faire de la radio ? Ce serait une longue histoire, mais je vais essayer de faire court. Et je veux dire, la première raison, c'est parce que la première fois que j'ai vu un poste radio, ça m'a fasciné, intrigué, interpellé, séduit, etc., etc. Et dans le nord de la Côte d'Ivoire où je suis né, donc à 750 km de la capitale politique de la Côte d'Ivoire, qui est Abidjan, c'est là où mon père, qui était commerçant, allait acheter des marchandises pour revenir dans le nord de la Côte d'Ivoire pour les revendre. Donc, il avait une espèce de bazar où tu trouvais tout, des stylos à billes, des cahiers de leçons, des pièces détachées de vélo, excusez-moi, je dis des terniers, et du savon, bref, c'est un vrai bazar. Bref, et une année, mon père est arrivé avec un poste de radio de la capitale. Et les postes de radio, à l'époque, c'était pas le petit portable comme vous pouvez le tenir dans la paume d'une main. C'était un vrai meuble, genre, pour donner un ordre d'idée, longueur presque un mètre, largeur 50 cm et profondeur 50 cm. Vous voyez un peu le genre, une vraie caisse. Hein. Et l'alimentation de la radio, c'était une espèce de batterie, comme une batterie de véhicule, qu'on mettait à l'extérieur, qu'on branchait sur la radio. Et pour capter les ondes, on tendait un fil métallique, je pense du cuivre, qui était en spirale, qu'on étendait d'un point à un autre. Et plus cette spirale était longue, plus la qualité d'écoute était meilleure. Et on branchait le fil électrique sur ce cuivre, qu'on branchait sur la batterie, qu'on rebranchait sur la radio, et on pouvait entendre parler la personne qui est là-dedans. Pourquoi ça m'a intrigué ? Pour moi, c'était un être vivant qui était dans cette boîte et qui nous parlait le matin quand mon père ouvrait la radio, le midi quand je reviens de l'école, il est toujours en train de parler. Le soir à 17h, je reviens de l'école, il est toujours en parler. Et je demandais à ma grand-mère, mais est-ce qu'il est sorti pour manger ? Et ma grand-mère qui dit, non, je ne l'ai pas vu. Mais tu sais, quand tu es parti à l'école, à un moment donné, il s'est tué. Et ce n'est que vers, quand on s'approchait de midi, qu'il a commencé à reparler. Et à l'heure de la prière de l'après-midi, il s'est encore tué. Et au moment où le soleil a commencé à s'incliner, c'est-à-dire vers 17h, il a commencé à reparler. Mais ma grand-mère aussi n'avait pas remarqué qu'effectivement, la radio ne parlait que 3 heures le matin, 3 heures à la mi-journée et 3 heures le soir. Et que c'est mon père qui appuyait un bouton et tournait une molette et on sentait que ça traversait les ondes. Et c'était les ondes courtes et les ondes moyennes. C'était pas la FM avec un son clair aujourd'hui. Donc on entendait ce qu'on appelle dans le langage de la radio de la friture. Ça fait il y a ici Abidjan, Radio Côte d'Ivoire. Ah, et mon père s'arrêtait là. Mais avant de trouver la station, il passait par des intermédiaires. Et puis c'est là où on entendait cette friture. Bref, c'est ce qui m'a fasciné. Et j'ai dit à ma grand-mère, oh, je veux faire ce métier, je veux parler comme ce monsieur un jour dans la boîte. Et ma grand-mère qui dit, mais non, mon petit-fils, tu ne feras pas de la radio. C'est de la sorcellerie. puisque tu vois quelqu'un qui est dans une boîte, pas grand comme un homme, et il arrive à se recroqueviller pour se cacher là-dedans, il ne sort pas pour manger, pour boire, ni faire pipi, caca, c'est de la sorcellerie des Blancs. Et tu sais que la sorcellerie, si on veut rentrer dans le club des sorciers, il faut qu'on offre une âme, un être humain. Tu ne vas pas offrir une vie humaine pour devenir un sorcier quand même. Ok, bon, je dis, oh, d'accord, t'es sûr, mais je vais quand même faire de la radio. Je vous ai joué cette partie-là, et ça, les années sont passées, et au fur et à mesure, je passe, c'est dans mon cursus scolaire, l'école primaire, le collège, le lycée, et à la fin du lycée, j'ai compris, entre-temps, que ce n'était pas un sorcier. Bien sûr, quand tu apprends la physique et la chimie, tu apprends le système de la radiotransmission, j'ai su que ce n'était pas de la sorcellerie, c'était de la technologie, point. Mmh. Et j'ai fini par dire à ma grand-mère, après le lycée, je vais passer le concours pour entrer à l'école de la radio. Et un peu découragé, cette grand-mère, mais qui m'adorait, qui voit que depuis 10 ans, je lui dis, je veux faire de la radio. Elle était convaincue que c'est quand même la sorcellerie, qu'il fallait offrir une vie humaine. Donc elle m'a appelé dans le fond de la case et m'a dit, mon petit-fils, je vois que tu persistes. Moi, je suis vieille. Quand les chefs des sorciers vont te demander d'offrir une vie humaine, faudra offrir la mienne. Je préfère m'offrir, me sacrifier pour que tu rentres dans le club des sorciers blancs. Et j'ai dit, non, maman, grand-mère, c'est pas vrai. Ben, je ne pouvais pas la convaincre. J'ai fini par dire, ok, d'accord, quand ils vont me demander une vie humaine, je vais offrir ta vie humaine. Et c'est comme ça que je suis rentré à l'école de journalisme d'Abidjan, où j'ai fait mon premier cycle. Je suis venu faire mon cycle supérieur à l'Institut National de l'Audiovisuel à Paris, en région parisienne. Et en 84, je suis retourné faire de la radio dans mon pays. Et ma grand-mère était toujours vivante. Elle m'a entendu à la radio et elle n'était pas encore morte. Et c'est là où je l'ai expliqué. Tu vois, on ne donne pas une vie humaine. Et depuis, elle était apaisée. Et j'ai fait la radio. Le seul métier que j'ai appris, qui est le métier certainement l'un des plus épanouissants de la Terre. Vous savez tout.
Wow.
C'est une très belle histoire, dis donc.
Ouais. C'est magnifique.
Et pourquoi vous venez à Africaja chaque année ?
Pourquoi est-ce que je viens à Africaja ? Donc je vous ai dit, à partir de 2003, j'ai quitté mon pays qui était en guerre. Je suis venu demander l'asile politique en France. On me l'a accordé. Et le seul métier que j'ai appris, moi je suis un vrai cancre, hein, je ne sais rien faire d'autre. Ne me demandez pas de faire quoi que ce soit. Le seul métier que j'ai appris, c'est la radio. Donc forcément, j'ai cherché du travail à la radio. Et j'ai commencé à faire de la radio à Radio France Internationale, qui est le média extérieur de la France. Et en 2005, j'ai proposé une chronique à France Inter, qu'il a accepté. Et j'ai commencé mes premières collaborations à France Inter dans l'émission de Morgane Didiège. L'émission s'appelait « Les arbres s'en souviennent encore ». Et ma chronique est passée l'été 2005. Et en 2006, avec mon ami et mon frère français, Vladimir Cagnolari, nous avons écrit un projet pour tenter de raconter le continent africain à travers la musique. Pourquoi on a choisi de raconter le continent africain? Parce que en Europe en général et en France en particulier, le continent africain est très mal connu. Et c'est souvent même que les gens l'évoquent comme un pays, alors que c'est un continent de 54 États. Si on ne compte pas la Somaliland. Et maintenant que le Soudan s'est divisé en deux, ce serait 56 États. Bref, et le projet de cette émission, c'était comment raconter les Afriques et sortir du prisme des médias qui ne présentent l'Afrique que quand il y a du sang. On évoque l'Afrique quand il y a une guerre. On évoque l'Afrique quand il y a une sécheresse, quand il y a une famine, quand il y a une catastrophe naturelle. Donc à travers que les aspects négatifs. Nous, on s'est dit, on peut raconter les Afriques à travers d'autres angles, à travers la science, parce qu'il y a des scientifiques en Afrique, à travers son histoire, parce qu'elle a une histoire, n'en déplaise à M. Sarkozy, l'ex-président de la France, qui a dit dans un discours que l'Afrique n'était pas assez rentrée dans l'histoire, et ce qui est une aberration totale. Dès l'instant où le continent africain a quand même combattu pendant les deux guerres 14-18 et 39-45 à libérer la France du nazisme, nous pensons légitimement que c'est une façon de rentrer dans l'histoire française. Et que maintenant, quand on fait des recherches, on peut pousser très loin, que c'est quand même les savants noirs du bassin du Nil, de l'Égypte, qui ont enseigné toutes les connaissances savantes de la technologie d'aujourd'hui, que tout ce qui relève de l'astronomie, de la trigonométrie, de l'algèbre, des mathématiques. Ce sont des savants noirs qui ont éduqué les savants grecs et tout le développement contemporain aujourd'hui est assis sur les connaissances dites des Grecs. Mais ce sont des savants noirs du bassin du Nil. Vous êtes jeunes, je vous en parle pas pour revendiquer avec fierté une espèce de chauvinisme africain, mais parce que c'est important de connaître l'histoire des peuples. Vous trouverez ça, comme vous êtes des champions de l'Internet, vous cliquez Youssef, the Black of the Nile and his family. Si vous ne vous rappelez pas du titre, vous cliquez Youssef. C'est lui, un Américain, qui a fait pendant 20 ans des recherches et qui a consigné le résultat de ses recherches dans cet ouvrage de thèse de doctorat qui s'appelle The Black of the Nile, les Noirs du Nil et leur famille. Et là-dedans, il cite intégralement le savant noir qui a instruit le savant grec et à quelle date ? 3000, 4000 ans avant Jésus-Christ, 2000 ans avant Jésus-Christ, etc., etc., etc. Donc de pouvoir raconter ces Afriques-là, pas par chauvinisme, pour déconstruire les clichés. Parce qu'il y a besoin de déconstruire les clichés. Si on ne déconstruit pas les clichés, nous restons dans les a priori et on entretient le mépris, la condescendance et ça ne participe pas du vivre ensemble. Voilà pourquoi j'ai décidé de faire de la radio à France Inter et de raconter, vous remarquerez, chaque fois je parle au pluriel en disant les Afriques. Parce que l'Afrique du Nord, l'Afrique subsaharienne, l'Afrique australe, elles sont effectivement les mêmes peuples. On a certainement des liens communs, des socles communs culturellement, politiquement, historiquement, mais elles ne se ressemblent pas forcément. On a des détails qui nous différencient, comme on a des détails qui nous différencient de la France, du Japon, des États-Unis, de Kuala Lumpur. Voilà pourquoi j'ai fait de la radio, pour contribuer, participer à la transmission des connaissances et de la connaissance des peuples. Est-ce que j'ai répondu clairement à la question ?
Oui.
Bon.
Oui.
Mais du coup, la deuxième question que vous avez posée, c'était pourquoi vous veniez à Africa Jar chaque année.
Pourquoi? Ouais, en fait, oui, c'est vrai, c'était ça ta question. Oui. Donc voilà, dans cette, comment dire, dans cette quête de raconter les Afriques sur la radio à France Inter, et un jour, en 2007, un ami comédien invité à Kajar, il découvre ce village où, c'est une expression que j'utilise même quand je parle de ma ville qui a 300 000 habitants. Mais dès l'instant où on est dans le contexte, on va dire, rural, j'emploie le mot village. Ce n'est pas pour sous-évaluer la dimension de la ville. Bon, bref. Donc, ce comédien découvre cette ville avec son festival entièrement dédié au continent africain, avec un plateau littéraire important, avec un plateau cinématographique important et avec un plateau musical important. C'est certainement l'un des seuls festivals en France où il n'y a pas une discipline minoritaire et une majeure par rapport aux autres. Mmh. Tous les grands auteurs africains et voire français sont passés à Africa Jar, notamment Eric Orsenna, qui est l'académicien, notamment un philosophe comme Suleiman Bachir, ou un autre philosophe comme Achille Mbembe, ou un romancier comme Alema Banco, ou encore un autre romancier comme Dongala, etc., etc. Donc, il me dit, Solo, mais c'est pas possible, cette ville, ce festival, c'est pour toi. Autrement dit, pour l'Afrique enchantée. Et je lui dis, mais je suis sûr que si tu fouilles, tu vas trouver quelqu'un qui a une radio ou un reporter, tu ramasses un bout de son, le plus pourri possible, même si t'es pas de qualité, c'est pas grave, c'est pour donner de l'illustration au sujet. Et tu me l'envoies par Internet, moi je vais chercher sur Internet les informations et je vais faire un focus sur le festival. Et c'est ainsi que pour la première fois en 2007, j'ai fait un focus sur Africa Jar. Et les organisateurs d'Africa Jar n'avaient jamais démarché France Inter pour présenter leur festival. Et ce sont les auditeurs qui venaient leur dire « Waouh là là, mais vous avez une touche incroyable, on parle de vous sur France Inter. » Et ils étaient étonnés. « Non, on ne connaît personne à France Inter. »« Ah si, tel jour, à telle heure, on a parlé d'Africa Jar, même pendant 15 minutes, ils ont joué de la musique en parlant de ces artistes que vous passez ici. Ils ont même résumé l'histoire de l'origine d'Africa Jar. » Et ils étaient agréablement surpris. Donc, il rappelle France Inter, on a un service qui s'appelle le service des relations avec les auditeurs. Même quand on n'a pas le téléphone direct d'un journaliste ou d'un producteur, on écrit à ce service ou on appelle ce service et qui nous met en contact. Et c'est comme ça qu'ils m'ont mis en contact avec Africa Jar. Oui, monsieur, merci, mille merci, oh, c'est trop sympa de votre page. Mais non, vous n'allez pas me remercier. Je ne fais que faire mon travail. Vous faites votre travail en créant un festival. Moi, je fais une émission qui raconte l'Afrique et tous les territoires où on donne de la visibilité à ces Afriques-là, moi, je m'impose le devoir de donner aussi de la visibilité à cet événement comme Africaja. Et c'est comme ça que mon amour s'est scellé avec Africaja. Et l'année d'après, ils m'ont invité en 2008. Donc, ça fait la 11e édition où je viens tous les ans. Voilà pourquoi je viens à Africaja, parce que Africaja est l'une des plateformes qui donne de la visibilité à ces Afriques-là et de la découvrir sous différentes facettes, différentes disciplines culturelles, musique, théâtre, cinéma.
Mmh. En effet. Et donc, vous avez dit que vous avez fait un petit, entre guillemets, coup de pub à Africaja, mais est-ce que vous l'avez déjà fait à d'autres festivals ou...
Oui, bon, je suis obligé de m'ouvrir quand même sur le reste, même si je suis tombé amoureux de Kajar. Je crois que c'est certainement ma première épouse dans les festivals que je fréquente. Oui, je suis grave amoureux d'elle. Et non, je parcours d'autres festivals, notamment les Fiestas du Sud à Marseille, où il y a toujours un volet Afrique qui est ouvert sur dans ces festivals, parce que Marseille aussi est une ville emblématique de l'entrée de l'Afrique. C'est quand même le lien entre la Méditerranée
oui.
avec l'Afrique. Il y a une forte émigration africaine à Marseille et il y a, par exemple, la population des Comores à Marseille est plus importante que la population de la capitale Moroni des Comores. Vous donnez les particularités qui font que ouais. je choisis des films et des régions pour le contenu de l'émission. Et une ville comme Rio Loco à Toulouse, ils ont tous les ans une thématique et c'est régulièrement que la thématique revient sur le continent africain. Ils ont présenté le Maghreb. Tu vois, cette année, c'était un focus sur la rumba congolaise. Donc, ça fait une raison pour aller à Toulouse ou un festival comme Musique Métisse à Angoulême qui a été la principale porte d'entrée de la plupart des grands musiciens africains connus aujourd'hui sur la scène internationale. Le premier festival qui leur a fait une ouverture pour le programmer pour la première fois en France, c'était Musique Métisse d'Angoulême. Mais vous pouvez me retrouver dans un festival comme Jazz à Vienne parce que tous les ans, ils ont une journée dédiée aux artistes africains. Et notamment cette année, par exemple, c'était Rokia Traoré du Mali, c'était Guirma Astaté Moulaté d'Éthiopie ou Youssoundour du Sénégal. Ouais, il y a toujours moult raisons qui font que je choisis d'aller dans tel ou tel festival. Dès l'instant où il y a une ouverture sur le continent africain, eh ben, j'essaie de m'y retrouver pour rendre compte de ce festival. Ouais. Ou comme dans des événements de jazz, comme Jazz à Coutances, pareil, ils ont toujours une programmation très africaine et je m'y retrouve.
D'accord.
Voilà.
Hier, on a reçu Touré Konda et donc...
Alors, ils nous ont dit que les nouveaux colons venaient toujours piller, en quelque sorte, les richesses d'Afrique. Et j'aimerais savoir ce que vous en pensez, en fait.
Oui, c'est vrai que c'est, quand on utilise des mots passéistes, ça braque les gens. Ils ont l'impression qu'on est en permanence dans une espèce de haine, de malaise et de critique malsaine. Mais je suis d'accord avec eux. Au fil des histoires qui ont lié l'Afrique au reste du monde, et tous ceux qui ont, à un moment donné, ont dominé le continent africain, hier, avant-hier, ça s'est appelé l'esclavage. Hier, ça s'appelait la colonisation. Aujourd'hui, ça s'appelle la mondialisation. Mais la démarche est toujours la même.
Oui.
On arrive en Afrique, on pille les richesses qui ne profitent pas forcément aux Africains et qui profitent aux besoins du monde occidental. Ce qu'on appelle les cultures de rente, ce sont toutes ces cultures qui ne sont pas des matières premières transformées sur place, notamment les matières premières comme le cuivre, le manganèse, l'uranium, le café, le cacao. Les prix ne sont pas décidés par les pays détenteurs de ces matières premières. Prenons un exemple concret pour illustrer par des mots une image précise. Imaginez que le boulanger de Kajar sur la place, les croissants qu'il fabrique, et qu'ils exportent dans les autres villages, ce sont les clients de ces villages-là qui décident, non, ton croissant aujourd'hui, on va l'acheter 1 euro. 2 jours après, viennent, ça suffit tes conneries, ton croissant, il vaut 50 centimes. Tout ça pour vous dire que ces matières premières, c'est l'Occident qui décide du prix de vente de ces oui. Afriques-là. Et Et ces Africains sont incapables de s'unir, faire un bloc commun pour faire la résistance face au système capitaliste, au système des exploitants. L'uranium qui permet de nourrir les centrales nucléaires ici en France, pour le confort des Français, il n'est pas produit en France. Il n'y en a pas dans les sous-sols français. L'essentiel est produit au Niger.
Ouais.
Et il est exploité par des Français. Que ce soit, on va citer le coltan pour les ordinateurs, pour les tablettes, pour les... Voilà ce portable avec lequel on est filmé pendant qu'on est en studio. Les réserves mondiales connues à ce jour, 80% des réserves mondiales se retrouvent dans un seul pays, la République démocratique du Congo. Et ce qui fait que, face à ce constat de toutes ces richesses dont regorge le continent, et ce continent continue d'être pauvre, où il y a encore de la famine, où il y a encore, on a du mal à avoir des hôpitaux, à scolariser des jeunes comme vous, et qu'on sait qu'on est... Il y a un autre artiste qui a illustré cette image, il dit « L'Afrique est assise sur une malle d'or et elle fait la manche ». Et c'est tout à fait exact. Toutes les richesses dont le monde occidental a besoin, elle va les puiser en Afrique et ce n'est pas l'Afrique qui en profite. Voilà pourquoi Touré Koundé dit les nouveaux colons continuent de piller l'Afrique. Et ces nouveaux colons ne s'appellent plus les colons avec le casque colonial. Oui. Ils s'appellent aujourd'hui, je ne sais pas, Bouygues, ils s'appellent Bolloré, ils s'appellent Orange pour la téléphonie mobile, ou ils s'appellent le grand... Apple, le patron de Apple, le patron de, je sais pas, les GAFA, Google, plein. Etc. C'est, ce sont les nouveaux colons. Oui. Ça a changé de nom, mais le fond reste le même.
Et est-ce que vous êtes déjà retourné dans votre pays depuis que vous avez été censuré là-bas?
Non, voilà, pour répondre frontalement à la question, non, pour la simple raison que la loi française, quand elle vous accorde le statut de réfugié politique, elle vous offre la possibilité de vous protéger contre votre pays où votre vie a été menacée. Donc, on intègre dans la clause qu'on appelle de protection, vous ne retournez plus dans votre pays. Pour que je puisse retourner en Côte d'Ivoire, il faut que maintenant je change mon statut de réfugié politique. Même si le régime, il a changé, que tout le monde sait que le régime qui a tenté de m'assassiner, ce n'est plus ce régime, mais il faut que les données soient changées par écrit dans le texte. Et c'est ce changement que je n'ai pas encore fait qui fait que depuis 15 ans, je n'ai pas pu remettre les pieds en Côte d'Ivoire. Ce qui ne m'empêche pas, je voyage. La France me donne un titre de voyage, ce qu'on appelle un passeport pour réfugiés et apatrides, qui fait que je vais partout en Afrique, mais sauf la Côte d'Ivoire. Voilà.
Et est-ce que vous voyez une différence entre la radio française et la radio ivoirienne?
Fondamentalement, il n'y a pas de différence. On a les mêmes fondamentaux de la radio, qui se résume en trois mots. Informer, éduquer, divertir. Donc c'est le même fonctionnement et les règles éthiques sont les mêmes. Si j'affirme quelque chose en radio, il faut que ce soit un fait. Les commentaires sont des tribunes. Mais si je donne le journal, il faut que je m'appuie sur des faits. Et que ce soit en Côte d'Ivoire ou en France, c'est exactement les mêmes règles éthiques qu'on respecte et les mêmes fondamentaux qu'on respecte. Maintenant, dans la forme, aujourd'hui, l'Europe... n'a plus beaucoup de temps. Il y a des milliards de choses à mettre en 24 heures. Donc les programmes sont saucissonnés, sont découpés à leur plus petite expression. Alors qu'en Afrique, aujourd'hui, vous allez trouver des tranches de radio d'une heure, de deux heures, de trois heures, où parfois on peut prendre la parole et parler pendant trois quarts d'heure avant de passer une musique. Ce qu'on ne ferait pas, par exemple, sur une radio française ou occidentale en général. Voilà pourquoi je dis, dans le fond, ça reste la même, et dans la forme, ça peut être légèrement différent, parce que comme toute radio, elle reflète un peu la culture de son univers dans lequel la radio s'exprime. Donc, une radio ne peut pas avoir forcément les mêmes couleurs, les mêmes brillances en Afrique que dans le monde occidental.
Donc, vous n'avez pas pu remettre les pieds en Côte d'Ivoire, mais peut-être que vous y avez gardé des engagements militants?
Pas militaires, non. Juste militants.
Mais elle a raison, c'est même militaire, puisque... Et tout engagement est une forme de combat. Et le combat ne se fait pas forcément. Les militaires, c'est avec des armes. Et aujourd'hui, vous êtes, les jeunes que vous êtes devant moi, je considère que vous êtes dans un combat. le combat d'utiliser, dans lequel vous utilisez l'arme de la radio pour informer, pour éduquer, pour faire changer les mentalités, pour faire évoluer les mentalités. Changement n'est pas peut-être le juste mot. Le fait de décider de recevoir un groupe africain pour ouvrir des questions sur leurs problématiques, vous participez de cette démarche de mieux faire connaître l'Afrique, ce qui est une forme de combat militant. Hein? Donc, ce n'est pas seulement ceux qui brandissent une étiquette. Oui, moi, je suis un militant. Non, c'est les actes qu'on pose, les choix qu'on fait dans la vie qui nous confèrent le statut de militant ou de combattant militaire.
D'accord. Et j'ai une question, donc oui. Ça n'a pas vraiment rapport avec donc ce qu'on d'engagement militant et tout. C'est pourquoi avoir choisi le pseudonyme Solo Solo?
Oula, violente question. En Côte d'Ivoire, quand une question est longue à élucider, on dit violente question.
D'accord.
Solo, c'est le diminutif de Suleiman. C'est un prénom plutôt moyen oriental. Et bien sûr, que vous savez, l'Afrique a subi toutes les formes d'agression, dont les agressions religieuses. Le catholicisme, le protestantisme, l'islam sont arrivés sur ce continent par le glaive et le feu. C'est par la force. Sinon, les Africains, comme tous les peuples, à la base, les Français, avant la chrétienté, pareil, ils étaient de croyance, ce qu'on appelle grossièrement animiste. Parce qu'on reste convaincu que cette espèce d'inconnu que nous avons, nous les humains, qui est une interrogation angoissante. On voulait, chacun, cet esprit-là, donc, se manifeste à travers tous les éléments de la nature. L'eau, le feu, le vent, la lumière, les arbres, le caillou, dans nos croyances, tout cela est animé de l'esprit divin, d'où le nom animiste. Voilà pourquoi on dit, on avait des croyances, nous avons des croyances animistes. Et que dans ces croyances-là, il n'y a pas le dictat d'une hiérarchie. On n'a pas de pape, on n'a pas de prêtre, on n'a pas d'évêque. Où on n'a pas d'imam, on n'a pas un lieu où il faut aller en pèlerinage en donnant de l'argent à l'Arabie Saoudite qui s'engraisse sur notre dos. On ne va pas à Rome pour engraisser le pape. Vous avez remarqué, le pape, il a toujours une belle chevalière énorme en or, en diamant, les croix en or. Et pendant ce temps, les oies, ils crèvent la dalle. Vous voyez ? Donc, l'animisme, il n'y a pas ce type de hiérarchie. Toi, ton père, ta mère, vous décidez du lieu de votre culte. Parce qu'on a besoin de donner une réponse à cet inconnu qui est le trou noir, qui est après la mort, qu'est-ce qu'il y a? L'homme a donc inventé la spiritualité pour répondre à cette grande question. Qu'est-ce qu'il y a après la mort? Et dans l'animisme, on choisit le lieu, on choisit son Dieu. Ça peut être un arbre, ça peut être un rocher, ça peut être un cours d'eau, et point barre. Et bref, pour écraser cet animisme, cette croyance, les catholiques, les musulmans, les protestants après sont arrivés, ils ont dit, oh, vos croyances, c'est des croyances sataniques. Non, on va vous expliquer. Dieu a créé tous les hommes égaux. Mais c'est notre façon de le concevoir qui est la vraie croyance. Mais on peut le piéger, dire, mais si Dieu nous a créés égaux, ça veut dire qu'il nous a donné la même intelligence à tous pour qu'on imagine son existence, chacun à sa façon. Mais comment pouvez-vous donc m'expliquer que ce même Dieu qui nous a créé égaux, qui nous a donné la même intelligence, décide subitement, brusquement, tout à coup, que vous, votre façon de le concevoir est la meilleure? Mais sauf qu'eux, ils avaient les armes. Et ils nous ont imposé leur religion par les armes. Vous voyez, parfois, je prends des longs détours pour élucider et répondre à une question. Voilà comment l'islam est arrivé jusque dans ma savane du Nord, la Côte d'Ivoire. Mon père s'est islamisé et il a décidé de me donner un prénom moyen oriental, Suleiman. Et en Afrique occidentale, tous ceux qui portent le prénom Suleiman, le diminutif dans la famille, tout le monde t'appelle Solo. Et il a même trouvé une correspondance de celui qu'il a islamisé pour transformer son nom patronymique en Koulibaly. Et à la base, le nom patronymique de ma famille, c'est Soro. Et quand, dans ma quête identitaire et dans ma façon militante de réduire les dégâts collatéraux de cet impact de l'islam, j'ai décidé de mettre sur la place publique l'appellation Soro. Et du coup, j'ai appelé mon nom de journaliste et devenu Soro Solo. Pour répondre à la question, d'où vient Soro Solo? Allez, c'est reparti.
Thank you.
Bienvenue sur Radio Franca 93.2, la radio de l'avenir.
Bondi Bloc Café.
www.bondibloccentre.fr. J'ai l'impression que je fais comme Soro Solo, je prends de longs détours pour élucider une question. Alors oui, c'était les vacances et je me suis permis cet écart géographique pour valoriser ce que d'autres jeunes peuvent faire sur d'autres territoires. Cependant, le fait que Touré Kounda et Soro Solo soient passés en région centre mais soient interviewés à Cajar vous interroge encore peut-être sur la cohérence de cette émission du Bondi Bloc Centre Café qui privilégie habituellement l'information locale dans sa ligne éditoriale. Je me permets donc un dernier retour en arrière qui vous permettra de mieux comprendre votre avenir. Je vous le dis une dernière fois, nous ne sommes jamais loin les uns des autres. C'est une question de temps, d'espace, de circonstances et de coïncidences, comme le disait Touré Kounda tout à l'heure, et ça ne se calcule pas. J'ai donc le plaisir de vous annoncer l'arrivée de la planète Jupiter, OQS International, très bientôt dans votre région. C'est la surprise que je vous avais annoncée en début d'émission. Leur musique pénétrera vos oreilles qui capteront les vibrations de rumba mélangées à du rock'n'roll et d'autres ingrédients dont je vous laisserai le soin de goûter la puissance magnétique sur vos jambes et votre bassin, à l'instar de ces anneaux qui tournent autour de la planète du même nom. Jupiter OQS International se produira en showcase ce 15 septembre de 11h30 à 13h pour un brunch à la sardine, la guinguette orléanaise, puis de minuit 15 à 1h15 au jardin de l'évêché dans le cadre de Hop 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 2018. Retour en arrière sur l'édition 2017 du festival Africa Jar, durant laquelle Jupiter Bokonji, le leader du groupe, avait accordé une interview à un autre groupe de jeunes mobilisés sur la radio pédagogique du festival.
Bonjour, pouvez-vous nous présenter votre groupe ?
Mon groupe, ça s'appelle OQS. OQS, ça veut dire à manger la nourriture parce que nous sommes en train de puiser sur la musique traditionnelle du Congo. Étant donné que le Congo a plusieurs ethnies, plus de 450 ethnies et plus de 250 langues, et chaque ethnie est sous-ethnie, ça ne fait plus 450, ça nous fait 900, et chaque ethnie est sous-ethnie, à pratiquement 10 à 15 rythmes. Faisons les calculs, ça fait combien de rythmes? Alors c'est ça notre démarche à faire, revaloriser cette musique qui était oubliée, de le mettre dans l'orbite.
De quel instrument jouez-vous?
En fait, comme nous puisons sur la musique traditionnelle et qu'on ne peut pas jouer avec les instruments traditionnels, on joue le guitare, batterie et le tambour.
Depuis quand le groupe existe?
En fait, le groupe a trois étapes. Mon premier groupe, je l'ai créé en 1983. Deuxième groupe, c'était en 1994. Et ce troisième groupe qui est avec moi là, c'est depuis 2003. Et je crois que ça va être le dernier.
Où est-ce que vous vous êtes rencontrés?
Mais écoutez, c'est plutôt eux qui sont venus me chercher. Le troisième groupe que je vais jouer avec eux là, c'est eux qui sont venus me chercher. En 2003, j'ai dormi chez moi parce que j'en avais marre, je voulais cesser avec la musique. J'ai dit, je ne fais plus la musique, j'ai travaillé, j'étais comme un secrétaire particulier d'un ministre. Et j'ai dit, je ne fais plus la musique, je suis resté chez moi. Ce n'est que Yende, le bassiste, et Montana, celui qui avait le masque là, qui faisait la batterie, c'est eux qui ont venu me chercher dans ma chambre où je dormais pour me dire, vieux, on vient te réveiller, le moment est venu, on va exploser, et voilà, on est là.
Est-ce que vous avez un surnom?
Un surnom, il y en a plein. Nickname. Plein. Comment?
Nickname, un surnom, en anglais, comme on dit.
Un surnom. Ouais, il y en a. J'ai beaucoup de surnoms, j'ai beaucoup de prénoms, j'ai beaucoup de noms.
Lequel, hein? Un surnom parmi lesquels...
Ilola.
Ça veut dire quoi?
Ilola? C'est l'ancêtre.
Alors priez fort. D'où vient votre inspiration pour les chansons?
Ça vient surtout sur la musique traditionnelle.
Est-ce que c'est vous qui écrivez vos chansons?
Au début oui, parce qu'il fallait former les jeunes. Mais là maintenant là, je commence à me libérer parce que les jeunes ont compris le système, le jeu. Et je suis un peu libre, et je laisse un peu l'ouverture à tout le monde d'apporter. Le texte, la musique, donc la démocratie dans la musique.
Qu'appréciez-vous le plus quand vous revenez dans ce quand vous venez dans ce festival? Qu'est-ce que vous aimez ici quand vous êtes sur scène?
Le public sont chaleureux et surtout vous là, vous êtes venu me voir dans ma loge, en tout cas, ça j'apprécie beaucoup. Hein.
Qu'est-ce que vous pensez de l'Afrique?
L'Afrique, c'est encore jeune. Mais selon l'histoire, c'est le berceau de l'humanité. Mais selon l'évolution, c'est encore jeune. Je pense que l'Afrique, c'est le futur.
Maintenant, vous habitez en France ou en Afrique?
Écoutez, j'ai habité en Europe quand j'étais gosse. Quand j'avais ton âge, j'étais ici, j'étais en Allemagne, à Berlin, parce que mon père travaillait, il était à la diplomatie. Mais là, actuellement, là, je vis à Kinshasa, en Afrique, et j'aimerais bien rester en Afrique. Malgré les gens, ils viennent faire l'immigration, mais moi, je veux bien rester en Afrique, parce que l'Afrique, pour moi, c'est ma source d'inspiration.
Pourquoi combattez-vous la politique de votre pays?
Parce que je veux bien qu'il y ait plus... Ah, là, vraiment, ta question là. Je combats la politique de mon pays parce que ça ne marche pas bien. On combat quelque chose qui ne marche pas bien. Mais je ne le combats pas par les armes, parce que je n'ai pas la possibilité, par mes textes, par le message de mes chansons.
Vous voyagez beaucoup?
J'ai presque fait le tour du monde.
Dans quel pays êtes-vous allé?
Mais j'ai bien dit, j'ai presque fait le tour du monde. Tu veux que je cite tous les pays? Ah, on va tarder ici. J'ai fait l'Australie, j'ai fait le Japon, j'ai fait la Corée du Nord, j'ai fait presque toute l'Europe, les Scandinaves, j'ai fait presque toute l'Afrique, j'ai été en Amérique, j'étais à Rio de Janeiro, j'étais à Praia, j'étais au Sénégal, j'étais à Maroc, Algérie, Tunisie, presque sauf les États-Unis et le Canada.
Quels sont vos meilleurs souvenirs de ces voyages?
Ça, c'est mon meilleur souvenir d'avoir là devant moi. C'est vraiment mon meilleur souvenir pour la journée d'aujourd'hui.
Vous avez habité à Berlin. Est-ce que vous avez habité à Berlin jusqu'à la chute du mur ou vous étiez parti avant la chute du mur?
En fait, j'étais là quand le mur existait encore. Et quand je suis rentré, le mur existait encore. Le mur est tombé, je suis déjà à Kinshasa 9 ans plus tard.
Vos artistes préférés?
Mes artistes préférés, il y a un, mais il est déjà décédé, c'était Bob Marley.
Oui. Quel regard portez-vous sur la jeunesse?
Je crois que le message passe, mon message est en train de passer, parce que la jeunesse est tout autour de moi. C'est-à-dire, eux là, ils ont compris, eux là, je crois qu'ils vont faire de bonnes choses par rapport à nous là.
Merci pour l'interview, de nous avoir répondu à nos questions.
Je tiens aussi à vous remercier les gars, vous êtes cool, merci beaucoup.
Voilà, Jupiter sera en direct et en live sur Radio Campus 88.3 ce samedi pour un showcase entre 11h30 et 13h, venez nombreux. Vous le retrouverez le soir dans la programmation du festival Hop 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 que vous pouvez déjà consulter sur le site de l'Astrolab. Cette émission du Bondi Bloc Centre est terminée, l'équipe du Bondi Bloc Centre vous invite à rejoindre ses rangs pour alimenter de manière écrite, radiophonique ou audiovisuelle ce média citoyen et participatif. Vous trouverez les moyens de nous contacter sur le site www.bondiblogcentre.fr ainsi que plein d'articles et émissions de radio. Bonne fin de journée à toutes et à tous.
Bondi Blog Centre. www.bondiblogcentre.fr.
Bondi Blog Café.
Bondi Bloc Centre.
Bondi Bloc Café.
Rejoins la rédaction.
www.bondibloccentre.fr.